Nature humaine, de Serge Joncourt aux éditions Flammarion, chapitre 4. Dimanche 4 juillet 1976. Alexandre remonta jusqu'à la ferme, mais au lieu de prendre de l'eau, il enfourcha sa motobécane et traversa le vallon pour foncer jusque chez Crahissac. Une fois sur place, les gendarmes n'y étaient pas. Peut-être que le chemin était bloqué ou que les roues toutes minces de leur fourgon s'étaient coincées dans les crevasses cavées par la sécheresse. Alexandre trouva le vieux, assis à l'intérieur, en nage, son fusil posé sur les genoux.
« Bon sang, mais Joseph, mais qu'est-ce qui se passe ?»
Le vieux semblait muré dans une colère froide. Il lâcha avec rage.
« Tout ça, c'est de votre faute. »«
De quoi vous parlez ?»«
De votre connerie de téléphone. »«
C'est les gars des PTT qu'ont appelé les gendarmes ?»«
Vous leur avez tout de même pas tiré dessus ?»«
Pas encore. » Alexandre était d'autant plus désarçonné que le vieux chevrier lui parlait tout le temps de non-violence ces derniers temps.
« Joseph, le fusil, c'est pas vraiment l'esprit de Gandhi. » Je t'en foutrais de la non-violence, ça paye plus la non-violence. Regarde en Corse et en Irlande, faut tout péter pour se faire entendre.
Vous n'avez pas tiré sur des gars qui installaient le téléphone?
Le téléphone, ça fait 2 millénaires qu'on vit sans, je veux pas de ça ici.
Le père Crahissac se replongea dans sa colère, balançant à Alexandre qu'il n'était qu'un fils de propriétaire et que c'était à cause d'eux qu'on tirait ces fils de caoutchouc au bord des chemins. Ses parents n'étaient rien que des matérialistes qui voulaient tout posséder. 2 bagnoles, des clôtures neuves, des mangeoires en aluminium, la télé, 2 tracteurs et des caddies pleins au mammouth. Et maintenant le téléphone? Mais ça s'arrêterait où?
Bon ben alors, vous leur avez tiré dessus ou pas?
Va pas raconter de conneries dans tout le canton, toi, hein?
J'ai juste scié leur putain de poteau. Des saloperies de troncs traitées à l'arsenic. Vous n'allez pas me fourrer de l'arsenic le long de mes terres. C'est avec ce bois que les Américains nous ont ramené le chancre en 40. Toute leur caisse de munitions en était infestée. Ces troncs-là, c'est la mort.
Mais le fusil?
Le fusil, c'est celui de mon père. C'est une terre de résistants, ici. Et si ton grand-père s'est retrouvé prisonnier, moi, mon père, était dans le maquis. C'est pas pareil.
Non, mais tout ça, c'est de vieilles histoires.
Ah, c'est sûr qu'il faut pas compter sur toi pour résister, hein. Je t'ai vu, avec ton tracteur vert et ta motobécane. Ce monde-là te bouffera, tu verras, tu te feras bouffer comme les autres.
Mais quel rapport avec le téléphone?
Le téléphone, c'est comme le Larzac, Golfech et Cresmileville. C'est comme toutes ces mines et ces aciéries qui ferment. Tu vois pas que le peuple se lève, de partout les gens se dressent contre ce monde-là. Faut pas se laisser faire, et des Larzac, il y en aura d'autres, crois-moi. Si on dit oui à tout ça, on est mort. Faut le refuser, ce monde-là. Faut pas s'y voter comme vous le faites, vous. Sans quoi, un jour, ils vous planteront une autoroute ou une centrale atomique au beau milieu de vos prés.
Alexandre s'était assis en face du bonhomme, se demandant si 70 ans, au fond, c'était si vieux que ça. Il le regardait sans savoir s'il fallait voir en lui ce que son père appelait un vieux con, ou s'il s'agissait d'un genre de prophète de malheur, un communiste chrétien qu'on réduisait à un fadorle, un chevrier malmené par un monde en plein bouleversement. Pour Alexandre, il était évident qu'on en avait besoin de ce téléphone, de même que de la GS, d'une John Deere et de la télé, ne serait-ce que pour communiquer avec le mammouth sur la route de Toulouse et le fournir en légumes, et demain en viande, pourquoi pas. Mais le vieux Crahissac ne voulait pas de ces fils noirs qui pendaient au bord des routes des câbles qui s'ajoutaient à ceux déjà bien visibles d'EDF.
L'État vous tiendra tous au bout d'une laisse, et dans 10 ans, il y aura tellement de fils le long des routes qu'on sera obligé de couper les arbres.
Mais vous vous êtes bien fait installer l'électricité et l'eau ici.
Mais tu parles, les pluies sont secs, le robinet pisque un filet marronasse. Regarde si tu me crois pas.
Alexandre saisit un verre et ouvrit l'eau. C'est vrai qu'elle était sale, sa flotte. Elle sortait toute terreuse. Il y a du vin en dessous de l'évier. Mets la demi-dose pour toi. À cause de la chaleur qui régnait partout, la bouteille semblait fraîche. Alexandre fit couler ce vin de soif. Il était d'un beau rouge rubis. Dans le temps, les sources étaient potables. Mais maintenant, ils tarissent les nappes pour que des crétins comme vous aillent en acheter en bouteille chez Mammouth. Ils vous vendent l'eau au prix du pinard et vous, comme des cons, vous l'achetez. Depuis qu'Alexandre était arrivé, l'Espagnol restait vautré sous la table, la truffe sur le carrelage, à chercher le frais. Mais soudain, il se redressa et se mit à aboyer, vint se poster face à son maître et le regarda droit dans les yeux. Puis fusa dehors, en gueulant comme à la chasse, se ruant au devant des fourgons de la gendarmerie que lui seul avait entendu jusque-là.
Mais je sais qu'ils vont me faire des histoires. Ils m'ont dans le collimateur à Saint-Géry, et même en haut lieu. Eh oui, les gens comme moi, on leur fait peur, tu comprends. Même à Paris, là-haut, ils ont peur qu'on fasse dérailler ce monde.
Joseph, planquez le fusil, parce que là, pour le coup, ça risque vraiment de remonter jusqu'à Paris. Les 3 fourgons se profilèrent bientôt au bout du chemin. Par la fenêtre, Alexandre et Crahissac les virent s'avancer doucement. 3 Renault, bizarrement étroits et salement ballottés par le chemin crevassé, ce qui leur donnait un air pathétique. Là-dessus, un peu sonné par la giclée de vin frais, Alexandre lança avec philosophie au vieux. Vous feriez mieux de vous excuser. Après tout, les gendarmes, c'est des militaires. Ça se respecte.
Tu parles comme Debré.
Ben quoi, faut bien se protéger. Se protéger de qui? Des soviets, c'est ça? T'es comme les autres, toi, t'as peur des Russes?
Dehors, des portières coulissaient. Alexandre eut le réflexe de saisir le fusil sur la table et de le glisser en haut de l'armoire. Seulement voilà, quand les gendarmes apparurent à la porte, Alexandre sentit que les militaires étaient plutôt surpris de le voir là. Pour autant, il n'osa pas se défausser, dire qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Tout de même, lui revint ce que Crissac lui avait soufflé au retour de ses premières manifs avec les gars du Larzac. Si un jour les gendarmes commencent à s'intéresser à toi, alors t'es foutu. Ça n'en finit jamais avec eux.
Nature humaine, Serge Joncourt, édition Flammarion, c'était le chapitre 4.
In France ou pas parisien, quand tout son fait les papiers, papiers et tout au grand doux, et de tout la scoulou, des baies de roux et des blancs, des gars sous papier boulant. Passat examens, fa tus primers documents, et trec has mostrat un nen.
On parle beaucoup de transition aujourd'hui, mais en fait, les sociétés paysannes ont déjà connu une grande transition, un grand effondrement, une grande renaissance, au moment du passage entre l'ère paysanne et l'ère de la modernité.
Valérie Joussaume est enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, au sein de l'équipe CNRS Espace et Société. Elle est l'autrice du livre « Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes » aux éditions de l'Aube. Et là, nous entendons le troisième épisode de la première saison de ces podcasts vidéo que vous pouvez retrouver sur imaginela.fr.
Les campagnes ont connu, avec l'entrée dans la révolution industrielle, un grand effondrement, que Henri Mandras appelait ça la fin des paysans. Il faut bien comprendre que les campagnes, dans l'ère paysanne, elles étaient le centre. Elles étaient le centre politique, puisque par le capitalisme foncier. Elles étaient un centre économique, puisque c'est de là que dépendait la prospérité du pays. C'était un centre démographique, ça représentait 80% de la population. C'était un centre sociologique, culturel et symbolique, avec toute la symbolique même religieuse de la moisson, etc. Donc, elles étaient vraiment le centre. Et en fait, avec la révolution industrielle, elles vont connaître un effondrement complet, ces sociétés paysannes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le capitalisme et le productivisme vont s'immiscer dans l'agriculture en plusieurs temps, dès le 19e siècle avec la privatisation des terres collectives, la partage des communs. Ensuite, la mise en concurrence des agricultures du monde entier, notamment l'agriculture américaine à la fin du 19e siècle. Et puis, bien sûr, au 20e siècle, l'industrialisation de la production agricole avec la motorisation, la mécanisation, la chimisation, la sélection des plantes et des animaux. Tout ça, ça va transformer la paysannerie, en fait, on va aller vers de la production agricole industrialisée et avec le nouveau mot qui va décrire le producteur, qui est donc l'agriculteur. On passe d'une société où il y avait beaucoup de paysans à une société où il y a peu d'agriculteurs. Et donc, il va y avoir un effondrement très violent. C'est un effondrement démographique, puis avec l'exode rural, 6 générations d'exode rural. Ça va être un effondrement social, puisque c'est un effondrement anthropologique. C'est la fin de la paysannerie qui avait duré 8000 ans, 350 générations. Donc, c'est l'effondrement anthropologique, un effondrement culturel. L'effondrement culturel va passer aussi par exemple, l'éradication des langues régionales et des patois locaux. Donc cet effondrement culturel, c'est aussi toute cette critique médiatique de l'image du plouc très très dévalorisante. Donc là, on a vraiment un effondrement. Le choc de cet effondrement, il est très violent. Il n'a pas beaucoup encore été analysé dans ses conséquences actuelles sur les sentiments d'infériorité, par exemple, qui peuvent rester encore. Donc cet effondrement, il va durer 100 ans, 1850-1950. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte des Trente Glorieuses, dans un contexte de développement de la voiture, du développement du camion, de délocalisation de l'industrie des villes vers les campagnes, on va commencer à voir des signes d'une renaissance rurale, c'est-à-dire d'une recomposition des sociétés rurales dans un contexte moderne. Donc on va avoir les sociétés rurales sont acculturées. Elles se sont fondues dans une nouvelle culture qui est la culture de l'ère de la modernité, donc de l'individualisme, du productivisme, de la modernité. Et cette renaissance rurale, elle va s'opérer d'abord par l'emploi. Donc les sociétés rurales vont adhérer en fait à l'industrialisation par donc la modernisation de l'agriculture, en accueillant des entreprises délocalisées qui viennent des villes, mais aussi, notamment dans l'Ouest, par la création d'industries localisées, avec des très grandes sagas familiales de création d'entreprises en milieu rural. Donc ça, c'est la renaissance rurale par l'emploi. Ensuite, à partir des années 70, surtout, on va avoir aussi des phénomènes de renaissance rurale par la population. C'est-à-dire que les gens vont venir habiter à la campagne, dans une logique résidentielle. Alors, cette renaissance rurale, ça va être le mouvement périurbain, qui va générer une renaissance de la démographie autour des villes, mais des grandes villes, mais aussi des villes moyennes, aussi des petites villes. Et puis aussi, il va y avoir dans les années 90 vraiment un retour à la campagne. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui viennent habiter à la campagne en travaillant en ville, mais on va avoir des mouvements de gens qui viennent habiter à la campagne pour habiter à la campagne. Alors ça peut être des retraités, mais c'est aussi des Britanniques, des Néerlandais, et puis des gens qui vont avoir envie de changer de vie. Ça, c'est le retour à la campagne. Et puis le troisième élément de la Renaissance rurale, c'est un peu différent, c'est la résistance paysanne. On va avoir de façon minoritaire, mais constante, une résistance paysanne, c'est-à-dire des gens qui veulent rester des producteurs autonomes, avec une forme de territorialité, de proximité, de circuit court, une vision de l'agriculture qui n'est pas l'agriculture industrialisée, mais qui est bien une agriculture paysanne, familiale. Donc on a des paysans qui vont essayer de résister, ils vont être rejoints dans les années 70 par le mouvement hippie de retour à la terre. Et ils sont à nouveau rejoints en ce moment même par des nouvelles générations de jeunes qui sont dans une perspective de nouveaux paysans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que l'ère paysanne, c'est vraiment la vie à la campagne, c'est-à-dire une nature anthropisée. L'ère de la modernité, c'est vraiment l'époque, c'est l'ère urbaine. On va vivre concentré dans la ville pour produire. La société vers laquelle on va, l'ère de la noosphère, il me semble, va être une société avec un habitat plus dispersé. Il est probable que dans l'avenir, nous habitions dans les campagnes selon une logique résidentielle. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de transition contemporaine, ce n'est pas la première fois qu'on vit une transition. Et pour analyser la transition actuelle, on peut regarder comment ça a pu se passer pour les sociétés paysannes et pour les territoires ruraux par le passé. Il me semble que dans l'avenir, au cours de l'ère de la noosphère, cette ère de la pensée humaine connectée, nous habiterons de façon dispersée dans l'espace. Depuis deux générations déjà, la population française se déconcentre, elle se desserre, elle se dilue dans l'espace. Et on peut imaginer qu'avec, par exemple, le développement du télétravail, et peut-être même à l'avenir avec le développement du revenu de citoyenneté, nous soyons libres de travailler là où nous voulons habiter. Et donc, on peut supposer qu'à l'avenir, le désir résidentiel, c'est ça qui va être le moteur de la dynamique des territoires. Et il me semble que de ce point de vue-là, les campagnes ont beaucoup à offrir à l'avenir.
Aujourd'hui, vous avez entendu un extrait du livre de Serge Joncourt, Nature humaine, paru aux éditions Flammarion, la chanson de la Talbert à Los Papiers et un extrait des podcasts vidéo de Valérie Joussaume à retrouver sur imaginela.fr. Merci à Rix pour l'habillage musical, à CFM, la Talbert, l'été de Vaour, la 4C et la Dat du Tarn. Retrouvez toutes les infos du projet L'Avenir est à la campagne sur le site de la compagnie des funambules, lesfunambules.fr. Une adresse mail pour nous contacter, avenircampagne@lesfunambules.fr. avenircampagne@lesfunambules.fr. À très bientôt et n'oubliez pas, l'avenir est à la campagne.